Il y a des moments où nous vivons des doubles peines et d'autres où nous vivons des doubles joies. Aujourd'hui, je suis plutôt dans la situation de vivre la double joie. D'abord de me retrouver avec mon délégué à la vie consacrée, le père Didier Dehan, qui a proclamé cet évangile, avec des frères religieux, étant moi-même religieux, apostolique aussi, d'une autre congrégation, mais nous en sommes très proches. Et puis joie aussi de la présence de cette communauté religieuse dans ce grand et beau diocèse d'Alsace, archidiocèse de Strasbourg, qui va jusqu'à Haute-Marsheim, car nous comptons, nous, peuple de Dieu, nous, archevêques, sur la vie consacrée, la vie religieuse, pour porter cette nouvelle évangélisation. Pardonnez-moi d'être un peu en retard sur ma nomination à Strasbourg et de revenir un peu en arrière sur ma mission aux armées. Je compte sur la vie consacrée, la vie religieuse, pour être un peu les forces spéciales de la mission nouvelle à laquelle le Concile Vatican II et tous nos papes depuis, le pape François en premier, nous invitent, la nouvelle évangélisation. Donc des forces spéciales ne seraient rien s'il n'y avait pas l'armée conventionnelle, bien entendu, de même qu'un général n'est rien sans son armée, mais il faut des personnes particulièrement libres, particulièrement agiles, particulièrement discrètes. Alors, la discrétion dans le monde militaire se traduit dans le monde ecclésiastique sous un autre mot que vous connaissez peut-être un peu mieux dans notre jargon catholique, humilité. Parce que l'homme discret n'est pas connu, il agit dans l'ombre, et peu lui importe qu'il soit promu ou mis en lumière, c'est cela les forces spéciales. Hein. Voilà, donc nous comptons vraiment sur toutes nos communautés religieuses au moment où nous sommes devant des choix de mission très importants, très décisifs, sûrement pour les décennies qui viennent. Voilà, nous sommes à un tournant historique pour l'Église. Le pape François nous dit souvent, comme une sorte de refrain litanique, nous ne sommes pas à une époque de changement, nous sommes à un changement d'époque. Voilà. C'est dit de façon un peu brutale, je cite le pape François de façon précise. Voilà. Alors, nous avons vécu certainement pour nos anciens, très anciens, d'autres époques de bouleversements considérables. Il se fait qu'on en a vécu un avec le Concile Vatican II, il y a entre 1962 et 1965. Un certain nombre d'entre nous, vous n'étiez pas nés. Voilà. Mais ça a été un bouleversement intérieur et maintenant il faut le traduire dans les actes et il faut que nous ne soyons pas simplement à la remorque des changements de la société, mais que nous soyons des prophètes d'un monde nouveau. Je rappelle que la vie religieuse, la vie consacrée de façon générale, vie religieuse, connaissez nos serviteurs de Jésus-Marie, est dans l'Église un signe particulier qui n'est pas là pour rabaisser les autres états ou chemins de sainteté, je pense au mariage, à la famille. Il n'est pas dit que parce qu'on est religieux, on est plus saint qu'un homme ou une femme mariée. Voilà. On doit aussi se supporter, paraît-il, dans la vie de couple, mais bien sûr, il y a la grâce du mariage, bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais nous sommes signes, en tant que religieux, d'une réalité tout à fait intéressante qui s'appelle le royaume de Dieu, dont Jésus parle tout le temps. Voilà. Alors, vous méditerez cela avec nos frères d'Haute-Marsheim et de Mulhouse. Mais je voudrais en venir à la patronale d'aujourd'hui, c'est la patronne de la congrégation, si j'ai bien compris, Marie, mais Marie sous un vocable un peu particulier. Je profite de la présence des enfants pour dire il n'y a qu'une seule Marie. Hein. Voilà. Alors, nous savons bien sûr que Marie apparaissant à Lourdes est toujours meilleure que Marie apparaissant au Portugal, à Fatima, bien entendu, parce que nous sommes français, nous ne sommes pas portugais. Voilà. Mais n'empêche que c'est quand même toujours la même Marie, dont le mystère est tellement riche qu'on ne peut pas l'appréhender par un seul nom, un seul vocable. Voilà, il y a tellement de facettes dans Marie qu'on la saisit par un côté, bon, cœur immaculé de Marie, qui est finalement pour toute l'humanité, parce que nous sommes tous des pécheurs, le refuge des pécheurs. Voilà. Alors, je souligne d'abord pourquoi nous avons des patrons et des patronnes. Enfin, en tout cas, moi j'ai la chance de m'appeler Luc, donc j'ai un saint patron bien identifié. C'est moins clair avec un certain nombre de prénoms qui sont donnés aujourd'hui à un certain nombre de nos enfants. Et voilà. En tout cas, le fait que nous sommes patronnés, parrainés, signifie que nous avons besoin constamment de l'initiative de Dieu dans nos vies. Alors, dans notre jargon chrétien, ça s'appelle la grâce. Voilà. Mais je ne sais pas si ça parle à tous nos contemporains. Hein. Disons, tu sais, tu as besoin de la grâce, sinon tu es pélagien. Certes, le pape lui-même, pape François, parle de Pélage, que tout le monde connaît, bien entendu. Ce n'est pas un ami, hein. C'est un homme qui est mort il y a 1600 ans. Voilà. Et en disant, nous sommes tous un peu pélagiens, il veut dire par là, le pape, que nous minimisons le rôle du don de Dieu, de la grâce dans nos vies. Et en particulier, nous sommes à peu près tous d'accord pour que Dieu nous aide. Hein, vous êtes d'accord avec moi ? Voilà. Hein. Dans notre jargon, ça s'appelle la grâce adjuvante. Voilà. On est tous d'accord pour avoir un coup de pouce, d'abord des amis, des collègues, la famille, et aussi, pourquoi pas, de Dieu, s'il existe, mais dans le doute, vaut mieux le prier. S'il n'existe pas, ben on aura gagné un peu en sérénité. Et s'il peut nous aider, c'est toujours ça de prix sur l'ennemi. Donc, il ne s'agit pas de cela, en fait. Pélage aussi disait tout cela. Il s'agit plutôt de la grâce qui ne se contente pas de collaborer avec nous, collaborer à faire notre volonté. Vous connaissez le Notre Père, pas celui que Jésus nous a enseigné, hein, celui qu'on essaye de vivre. Hein. Seigneur, que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Hein, bon. Donc, à ce titre-là, on serait bien content que Dieu nous aide à faire nos projets. Je vais parler de Joseph. Hein, et notre volonté, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit, et ça peut être heureux mais compliqué, que Dieu prenne des initiatives dans nos vies. Et quand je vous parle de la grâce de Dieu, je vous ai parlé d'abord des initiatives de la grâce de Dieu qui a des projets pour nous et sur nous. Et ça, c'est plus compliqué. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Nous allons le voir dans le cas d'un homme qui s'appelle Joseph. Voilà. Qui lui aussi a des projets, sauf que Dieu a d'autres projets sur lui qui ne coïncident pas avec ses projets. Mais auparavant, avant de parler de Joseph, un mot quand même sur Marie, puisque c'est quand même elle qui est d'abord concernée. Même si le choix de cet évangile est certainement prophétique, mais nous met d'abord en situation de contempler Joseph. On va essayer de raccorder les deux. Le cœur immaculé de Marie, je voulais juste vous dire une chose. Nous avons tout à fait le droit de nous sentir pécheurs, faibles, blessés, fragiles. Et nous en avons le droit parce que tout simplement, c'est ce que nous sommes. Voilà. Et même si vous vous êtes bien confessé il y a quelques jours ou quelques heures, même si tout à l'heure vous avez récité avec force ou vous frappant la poitrine, alors je dis on ne le fait plus, mais avant on le faisait, voilà, au moment du confiteor, en français, le « je confesse à Dieu », même s'il y a eu tout ça, à la fin quand même, au moment où vous allez communier tout à l'heure, vous allez dire « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ». Voilà. C'est ainsi au cours de l'Eucharistie et de la messe. Donc vous avez tout à fait le droit, peut-être même le devoir de vous sentir ainsi, et de chercher un refuge dans les bras et dans le cœur de Marie. puisqu'elle nous a été donnée précisément, et elle pourrait dire comme son fils, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades et les pécheurs. Sinon, elle ne serait pas venue pour grand monde, en fait, hein, en réalité. C'est comme notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. Alors, simplement, j'attire votre attention sur ceci. Nous avons tout à fait le droit d'être à l'égard de Marie comme un petit enfant qui vient chercher dans ses bras consolation et réconfort, comme un petit enfant, il y en a là, qui vient de tomber par terre, s'est blessé au genou et se précipite dans les bras de sa maman. Son papa est occupé à autre chose et la maman lui met un petit peu de baume sur le genou et puis sur le cœur. J'ai vu faire ça par mes sœurs. Voilà, on souffle un peu sur le bobo, il n'y a plus bobo. Et effectivement, 10 minutes après, voire 3 minutes après, le gamin repart jouer avec ses Legos ou avec ses trottinettes. Voilà. C'est une vision que nous avons de Marie, je ne la défends pas. Je ne l'interdis pas. C'est très bien. Il y a des moments de grande faiblesse où on va vers Marie ainsi. Mais, maintenant, j'attaque la question de Joseph. Mais je vous invite à bien réfléchir à ceci. Ne soyez pas infantile dans votre dévotion à Marie. Parce que vous allez vous trouver devant une sacrée mère qui va remuer les lignes et vous faire bouger. Et qui ne va pas vous dire, « Mais tu es très bien, ne bouge pas, reste dans ton fauteuil tranquillement. Voilà, tu t'es fait mal toi-même, ça s'appelle un péché, ou tu as été blessé par la vie, par d'autres, je suis là pour te consoler. » Oui, 5 minutes. Mais qu'est-ce qui va se passer avec Marie dans nos vies? La même chose qu'avec Joseph. Et je vais un peu vous violenter pour vous réveiller, s'il y a besoin. Pauvre Joseph, tel qu'il nous est rapporté, non pas dans nos dévotionnettes, mais dans les évangiles, à partir du moment où il a fréquenté Marie, sa vie s'est drôlement compliquée. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, allons, moi avec vous, vers Marie, refuge des pécheurs, cœur immaculé. Nous y trouverons sûrement quelques consolations, mais je vous le dis carrément, on ne trouvera aucun confort, aucun. Alors je vous donne l'exemple de Joseph, parce que c'est celui de l'évangile quand même, après tout vous n'êtes pas obligé de me croire. Vous pourriez prendre d'autres exemples non bibliques, par exemple Bernadette de Lourdes. Bernadette de Lourdes dont les ennuis ont commencé quand en 1858, elle a eu ses premières apparitions de la Vierge Marie qui vient à elle. Voilà. Alors évidemment, dans nos hagiographies, nos vies de saints un peu romancées, on a l'impression que Bernadette marche sur un petit nuage. Mais quand on lit la réalité, on s'aperçoit que tout devient terriblement compliqué et douloureux. Et c'est une joie merveilleuse qui s'empare du cœur de Bernadette, certainement comme celle de Joseph, puisqu'ils ont reçu leur vocation. Mais penser que Marie vous simplifie la vie, c'est probablement ce que Joseph pensait au départ. Où il a dit, lui qui a un cœur, ils habitent Nazareth, hein, tous les deux, bon. Lui qui a un cœur droit, c'est un homme juste. Certains même théologiens pensent que Joseph est aussi immaculé, totalement innocent, qui n'a pas été atteint par le péché, mais bon, on peut en discuter. En tout cas, ça nous est dit explicitement, c'est un homme très droit, très juste, comme ceux que bénit l'Ancien Testament. C'est un homme tout à fait extraordinaire, et il a la chance de rencontrer une jeune femme tout à fait extraordinaire qui s'appelle Marie, voilà, de Nazareth. Et ils sont promis l'un à l'autre, fiancés, quasiment mariés, ils n'ont pas vécu ensemble. On peut imaginer cette rencontre extraordinaire avec la Vierge Marie aussi dans nos vies, comme pour Bernadette. Waouh, la Vierge Marie m'apparaît, quelle chance, je vais avoir une vie tout à fait éclairée, illuminée, par l'innocence et la charité de la Vierge Marie. Bon, je ne veux pas vous faire peur, mais simplement être obligé de lire l'Évangile ensemble quand même. Qu'est-ce qui se passe pour Joseph ? Maintenant qu'il est proche de Marie, dans une proximité unique, on peut imaginer qu'ils avaient décidé d'un commun accord de se respecter totalement l'un et l'autre, tout en étant dans le cadre juridique, social et religieux du mariage, mais en gardant la distance de deux personnes qui se sentent suffisamment aspirées et attirées par Dieu et le mystère qui les habite pour ne pas, il y a des enfants, mais vivre jusqu'au bout le lien conjugal. Voilà. Les parents se chargeront de donner des explications à leurs enfants. Ils ont la grâce pour cela. Tout va bien. Petite vie tranquille, paisible. C'est l'occasion de le dire pour les jeunes hommes ou les jeunes femmes parmi nous. La vocation, c'est quelque chose de formidable. Régulièrement, il faut revenir, même après 30 ans, 40 ans, 50 ans, au jour où le Seigneur nous a appelés, où on s'est engagé. C'est merveilleux, c'est une source de joie extraordinaire. Savoir pourquoi et pour qui on existe est absolument extraordinaire. Mais je peux vous dire que vivre sa vocation parce qu'on y a répondu, c'est tout le contraire du confort. Alors ça, oui. Et j'arrive même maintenant, après un certain nombre d'années de vie sacerdotale, à me dire que c'est même un signe qu'on suit le Seigneur quand ça devient inconfortable. Voilà. Joseph, par exemple. Tout se passait bien jusqu'au moment où le Seigneur prend l'initiative, l'annonciation, d'aller jusqu'à Marie, d'entrer chez elle, l'ange du Seigneur, voilà, Nazareth, et puis elle se trouve enceinte par la puissance de l'Esprit-Saint, sans l'intervention de Joseph. Et c'est là où tout commence par se compliquer par Joseph, pour Joseph. Voilà ce que c'est que de vivre avec Marie. Alors, il est encombré par ce qu'il découvre, qui n'est pas du tout, ça je le tiens à le dire, de l'ordre du soupçon, puisque Joseph est un homme juste, ajusté à Dieu. Il ne soupçonne pas son épouse, car s'il la soupçonne d'avoir manqué à son devoir, conjugal, eh bien il doit, puisque c'est un homme juste, il doit par la loi la dénoncer publiquement, la renvoyer publiquement. Et vous savez que dans certains cas d'adultère, ça conduisait à des choses terribles, la condamnation à mort par lapidation, on jette des pierres, tue la personne. Donc, c'est pas très drôle, hein. On a une femme comme ça dans l'Évangile, adultère, qui va être lapidée, et puis Jésus intervient. Bon. Alors, donc simplement, Joseph se trouve embarrassé. Cette présence si lumineuse, si calme, si prophétique de Marie dans sa vie, commence à l'embarrasser drôlement. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors Joseph a un projet, comme nous avons, nous, des projets. Projets humains. On va faire ci, on va faire ça, on va acheter une maison, on va trouver une gentille femme, on trouve encore, pas évident, mais enfin bon, etc., etc. Voilà. On va être professionnellement ça. On a des projets. Et plus on est proche de Marie, plus on va, comme Joseph, découvrir que nos projets vont être anéantis parce qu'on est proche de Marie, par les appels de Dieu sur nous. Eh oui, c'est comme ça. Et c'est ce qui se passe avec Joseph. L'ange, il va avoir son projet qui est de renvoyer en privé Marie. Ils vont être séparés de corps, si vous voulez, voilà, on ne fait pas d'histoire. Parce que, au fond, je suis Joseph, je ne sais pas quelle est ma place dans ce qui se passe en Marie, je suis embarrassé, j'ai peur de... Je ne sais pas quelle est ma mission, quelle est ma place dans quelque chose qui me dépasse. Joseph est suffisamment ajusté à Dieu et à Marie pour comprendre que ce qui se passe en elle le dépasse, excusez-moi de jouer sur les mots, le dépasse complètement. Que faire ? Alors il élabore son projet, et nous avons des projets personnels communautaires. mais voici ce qui va se passer. L'ange va lui apparaître en songe, et vous lirez l'Évangile, non pas une fois, mais quatre fois. Et voici notre pauvre Joseph, renvoyé d'un côté, de l'autre. Premier conseil, tu prends Marie chez toi. Ah bon, mais moi je pensais plutôt garder la distance par rapport au mystère. Non, prends-la chez toi. L'idée de t'en séparer était une mauvaise idée. C'était un projet qui n'était pas selon le cœur de Dieu. Reprends-la chez toi. Et puis, progressivement, il va être conduit à quitter Nazareth, jeté sur les routes à Bethléem. Et puis de Bethléem, comme vous le savez, il est jeté sur les routes à nouveau pour l'Égypte. Et l'Égypte, il est à nouveau arraché à la terre où il avait commencé probablement à travailler à nouveau, comme charpentier. Et hop, déraciné une fois de plus, on croirait qu'il était militaire, quoi, changé tous les 2 ans, si vous voulez déménager tous les 2 ans, voilà, et hop, etc., jusqu'au moment, 4e intervention, on lui dit, ça y est, maintenant, tu rentres, un 3e, puis 4e, attention au fils d'Hérode, et il revient finalement à Nazareth, s'établir. Tout le contraire d'une vie de confort, c'est une vie sur la voie, c'est une vie sur les chemins, c'est une vie où il s'agit désormais avec Marie, prends Marie chez toi, où il s'agit avec Marie de porter le Christ au monde, de le protéger, c'est sa vocation, il la découvre grâce à Marie, grâce aux songes, grâce aux anges. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, n'ayons pas peur, allons comme pécheurs, allons comme fils de Dieu, allons comme un homme, comme une femme, jeune ou âgée, ou enfant, qui sait qu'il est appelé par le Seigneur, mais qui ne comprend pas toujours ce à quoi il est appelé. Alors, sans peur, laissons-nous conduire près de Marie, dans le cœur de Marie, jusqu'à ce que le Seigneur veut pour nous, une vie sur la voie, une vie au grand vent de l'Esprit, une vie de mission, sans peur, sans hésitation, une vie où on est déraciné comme Abraham, c'est ce que nous avons à retrouver aujourd'hui auprès de Marie. Amen.